Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Leïla au 3921. Bonsoir Leïla.
Bonsoir.
Bonsoir, quel âge avez-vous Leïla et d'où nous appelez-vous?
Alors, je m'appelle Leïla, j'habite Toulouse, dans le 31, dans un petit village à côté de Toulouse qui s'appelle Bruguières.
Oui.
Dans le 31 et j'ai 41 ans, bientôt 42. Voilà, je
D'accord.
suis maman de petite fille de 11 ans,
oui.
qui est déjà grande.
Oui.
Et une grande qui a 20 ans, qui est étudiante et qui passe actuellement son diplôme donc pour un BTS.
Oui.
Donc voilà, et je suis auxiliaire de vie actuellement, arrêt maladie.
D'accord, vous êtes
voilà.
Une maman fière aujourd'hui?
Oui, je suis fière de mes filles, mais encore plus que je suis fière, c'est elles qui me font l'honneur que je sois leur maman en fait. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être leur maman. Ce que je veux dire, c'est que le plus beau cadeau du monde, je crois que pour tout un chacun, le plus beau métier du monde, c'est d'être parent. Et je crois que dans le monde actuel et dans cette vie un peu sombre, même si la vie est belle et que le soleil brille, les enfants sont beaucoup en manque d'amour. Et il y a une vraie coupure de lien, je pense, dans la société familiale, fraternelle. Pardon, excusez-moi. C'est dommage pour les enfants. Ils ne grandissent pas dans un monde d'amour, mais plus de conditions, de rupture de droits, de rupture de liens sociaux. Voilà, de pouvoir s'extérioriser, s'exprimer, et puis voilà, puis on arrive à la radio, et puis on se dit, voilà, on mène un combat pour ses enfants, donc on a envie de la partager, et d'entendre aussi celle des autres, pour savoir ce qu'on n'a pas su faire dans la nôtre, de mieux, pour essayer d'éviter les embûches, les épreuves, comme tout un chacun, on a tous un parcours différent, mais là, ce soir, c'est un appel SOS d'une maman en détresse, se bat depuis 3 ans pour récupérer ma fille qui est donc placée à l'aide sociale à l'enfance.
Alors, vous le savez, Leïla, on évoque souvent, pas plus tard qu'hier soir, avec Ziyad Dali, merci Florian, un papa qui nous racontait une histoire totalement c'était incroyable. Encore une fois, du placement de ces deux garçons hier soir, pas plus tard qu'hier soir. On évoque souvent sur cette antenne ces placements d'enfants. Alors, on évoque parfois des placements qui sont totalement justifiés pour la protection de ces enfants, mais on évoque aussi malheureusement des placements qui font exploser la vie de ces enfants, des parents et puis des frères et sœurs. Enfin, on va vous écouter. Vous m'appelez pour toutes vos filles ou plutôt l'une de vos petites.
Alors, moi, c'est pour Inaya. Elle a 11 ans aujourd'hui.
Oui.
Elle est au collège, elle est en 6e. Elle est au collège à Toulouse, en classe 6e SECPA, 6e 1. Ma grande est avec moi, elle a 20 ans. Bon, elle a sa vie, elle avance, mais elle grandit. Elle ne voit plus sa sœur depuis presque 3 ans. Elle fait des demandes à répétition, elles sont toutes rejetées par la juge. Il n'y a plus de lien fraternel, il y a juste une famille entière qui se bat pour avoir des droits et malgré les grands-parents, les tatis, les tontons, de toute façon, c'est un parcours chaotique. L'aide sociale à l'enfance, c'est très particulier. C'est très particulier. J'ai fait un peu le tour de France moi-même. Moi, voilà, pour partir sur le départ, ça part toujours d'une précarité, de violence conjugale, d'handicap, de phobie scolaire. Et à partir de là, la machine se met en route. C'est-à-dire
Alors,
que tout se met en alerte et...
Précisez-moi dans quelle situation, en fait, tout ça a commencé. Vous parlez de phobie scolaire, en fait.
Alors, moi, me concernant, parce qu'après, c'est vraiment complexe, l'aide sociale à l'enfance, on va prendre toutes les difficultés sociales pour rendre responsable. Bien entendu, je rappelle bien quand même que, bien entendu, bien sûr qu'il y a des enfants qui sont en danger dans leur famille, qui sont victimes... certainement, et d'ailleurs c'est montré tous les jours, de violence, et qu'effectivement, oui, il y a des enfants qui ont besoin d'être placés et protégés de leurs parents ou de personnes nocives aux alentours. Moi, personnellement, c'est suite à des violences conjugales. Voilà,
oui.
c'est un peu l'histoire de Valérie Bacot, mais je m'appelle Leïla. Voilà. voilà. Donc j'ai eu une relation avec le papa pendant 15 ans, le père de ma petite, Naya. puisque c'est pas la même union. La grande est issue d'une première union.
Oui.
Donc ça a commencé par les violences conjugales. Donc le parcours, où tu prends des coups, tu déposes des plaintes, où elles sont pas forcément prises, où elles sont classées sans suite, où après c'est voilà, les hôpitaux, les plaintes, les nez cassés. Le parcours d'une femme battue un peu sous emprise, qui essaye quand même de sortir cette emprise. Et puis bon, après arrivent les coups quand je suis enceinte, donc d'Inaya. Donc les violences déjà commencent quand j'étais enceinte, puisque la grande aujourd'hui a 20 ans, et ne pensant pas qu'elle avait vu, mais un jour elle m'a dit, tu sais maman, j'étais derrière la porte et j'ai vu quand tu t'as mis des coups de porte au ventre. Donc voilà, commence comme ça les violences. Et donc du coup, ben, par la force des choses, on finit par aller voir l'assistante sociale de son secteur pour faire appel à l'aide et pour trouver des solutions, mais pour pouvoir sortir de ça, trouver des solutions, trouver un autre domicile, puis surtout, première chose, protéger les enfants. Puisque moi, j'étais enceinte donc d'Inaya, et puis ma fille, qui aujourd'hui a 20 ans, elle avait 6 ans et demi, 7 ans. Oui, quand je l'ai rencontrée. Donc, je mets en route l'assistante sociale, les services sociaux. Les violences n'arrêtent pas, de plainte sur plainte, de plainte sur plainte. Sachant que j'ai eu le nez cassé 2 ou 3 fois, j'ai eu des côtes cassées, m'a recousu les lèvres. Et bon, voilà. Je ne parle pas de la casse matérielle, parce que ça, c'est que matériel, mais après, ça s'apprend aussi. On me crève les pneus. C'est un peu une façon pour le mari de m'empêcher de travailler, parce que voilà, je travaillais, j'étais indépendante, j'avais un véhicule. Et bon, vous levez un matin, vous arrivez à votre voiture, vous avez les 4 pneus crevés. Quand c'est 3 fois dans le même mois, vous pensez bien qu'au prix des pneus aujourd'hui, c'est énorme pour une maman. Donc arrive le moment où on me dit, c'est trop dangereux pour vous, il faut partir. Voilà, il faut partir, sinon on va vous placer vos petites, ça ne peut plus durer. Alors que logiquement, je pense qu'il aurait peut-être fallu s'occuper du papa, l'aider, le soigner, lui apporter une aide, peut-être couper la liaison et après faire le lien avec l'enfant, parce que moi je pars du principe qu'on est deux parents et que le papa il a autant de droits que le papa, mais que si ça devient un danger, qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions et pas nous demander de dénoncer les violences et de faire 10 plaintes et de passer de plaintes au médecin légiste, de voir revivre les mêmes choses, les humiliations, les commentaires des gendarmes, les sous-entendus ou parfois les plaintes pas prises, parce qu'elles n'ont pas voulu, les gendarmes les refusaient, ou en gros c'était, si vous restez, c'est que vous aimez bien les prendre, donc voilà, ou est-ce que vous ne l'avez pas cherché un peu? Alors que quand il m'a cassé le nez, j'avais la petite dans les bras et je venais d'accoucher. En plus, j'allaitais ma fille et j'ai dû arrêter parce que j'ai plus lui demander de lait. Donc à partir de là, monsieur, dans votre dignité de femme et votre intimité, à ce niveau-là, déjà, c'est dur d'arriver à trouver la force de passer la porte. Parce qu'en plus, moi, je suis une femme quand même de tempérament. Je suis une femme assez indépendante. J'ai toujours défendu ma féminité. Et puis au final, je suis tombée moi-même dans un piège où je ne pensais pas tomber un jour.
Oui, oui.
Et puis, du coup, la honte se fait sentir. Et puis, on se sent coupable. Donc, et puis, vu qu'il n'y a pas de solution, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on reste, parce que les moyens ne sont pas là, l'aide n'est pas là. Et donc, du coup, on me demande de partir en centre parental sous menace de me placer mes enfants.
Alors que vous êtes battue, c'est à vous qu'on demande de partir.
C'est ça. On me demande de partir en centre parental. Et donc, Océane la Grande, qui aujourd'hui a 20 ans, rentre au collège. Et Naya, donc, j'avais accouché, Naya avait 4 mois et demi, 5 mois. Et en gros, on me dit que voilà, que si je pars pas, on me place mes enfants. Donc, on me fait clairement du chantage, parce que sinon, ça voudrait dire que je ne les protège pas. Mais le problème, c'est que moi, ma fille est rentrée au collège, et que j'ai mes parents ici, j'ai toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Et que Océane, elle avait trop d'attache vis-à-vis de sa famille. Donc, du coup, à contre-cœur, parce qu'après, je venais la prendre tous les week-ends. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, parce qu'elle rentrait au collège, elle était avec ses copines, elle a été dans la même école, elle a fait le sport avec les mêmes enfants, enfin, elle a grandi dans son village, quoi. Donc, la faire partir de son village, sachant que mes parents à moi et ses grands-parents, elle, habitent à 100 mètres, vous comprenez, il y a un lien très important. Donc, vu qu'elle rentrait en 6e et qu'elle partait sur 10 ans, 11 ans, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle voulait venir avec moi, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix que de partir? Ou est-ce qu'elle voulait rester chez son père, puisqu'avec son père, on avait trouvé un arrangement pour qu'elle puisse continuer le collège dans sa propre ville, et que je vienne et que je la récupère les week-ends puisque j'étais donc au centre, j'étais à Mazères, voilà, je vais pas donner le nom, j'étais dans un centre parental, donc du coup je pars, je m'installe là-bas.
Et elle, elle décide de rester avec son père ?
Non, pour le scolaire, elle reste avec son papa, parce qu'elle rentre au collège, elle est avec toutes ses copines, l'enfance.
Oui, je comprends.
Je ne peux pas lui imposer déjà les violences que je l'ai fait subir. Toutes ces nuits, il y a eu les gendarmes. Toutes ces nuits, il y avait sa mère par terre.
Et la couper de toutes ses copines, ça, c'est pas possible. On va marquer une petite pause, Leïla. Et puis, on va se retrouver dans quelques secondes. À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
22h48 sur Europe 1, c'est la libre antenne et vous pouvez nous appeler au 39 21. Leïla, donc vous laissez votre petite fille, on va dire, puisqu'elle a encore elle a 11 ans à l'époque. Non, elle a quel âge quand vous la laissez là avec ses copines pour qu'elle finisse l'année
scolaire.
Elle
rentre au collège, elle a 10 ans, 11 ans. Quoi, alors, voilà, c'est ça, à l'âge du collège.
Et vous, vous allez vous installer.
Voilà, mais je ne la laisse pas. C'est-à-dire que je m'arrange avec le papa pour arranger. Voilà. Puis en plus, j'étais à une heure de route, quoi, une heure dix. Donc je pouvais très largement... elle était tout le week-end à la maison, les mercredis.
Oui, j'entends complètement.
Voilà, sachant qu'elle avait sa petite sœur. Par contre, j'aimerais quand même un peu revenir sur juste avant, parce que je veux être totalement transparente vis-à-vis de mes filles et de ma vie. Parce qu'on a du mal à raconter vraiment le fond. Et moi, je veux être totalement profonde et sincère. Avant d'avoir Inaya, j'ai été incarcérée pour violence conjugale.
C'est-à-dire ?
C'était en 2008. C'est-à-dire que je l'ai rencontré, le papa, en 2006. On est restés 2 ans ensemble. Sur ces 2 ans, il m'a pété le nez, il m'a pété les dents. J'ai dû déposer 10 plaintes. Donc j'avais Kossian, j'avais pas encore Inaya. Pour vous dire que le pire, c'est que je suis revenue, j'ai pardonné. Mais je vais vous raconter vraiment, parce que je crois que vous allez écrire des livres. Donc je rencontre le père de ma fille en 2006. Je tombe éperdument amoureuse de lui, c'est un coup de foudre, j'avoue. Parce que je pense qu'à un moment donné, le cœur n'a plus de raison. On essaye de sauver la passion, mais que ce n'est pas toujours adapté. J'avais 26 ans, aujourd'hui j'en ai 42, donc l'eau a coulé sous les ponts. Donc pendant ces 2 ans, il y a eu des violences. Il était vraiment très, 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 très alcoolique à l'époque.
Oui.
Et c'était vraiment des violences extrêmes qui pouvaient partir à la maison, où ça pouvait tout casser. Mais bon, voilà, c'est à cette époque-là que quoi de cassé, on m'a recousu les lèvres. Je sortais plus de chez moi, c'était défensement. Je travaillais à l'époque à la poste et on me disait, alors chaque fois, je suis tombée, la petite m'a mis un coup de coude. Enfin voilà, à chaque fois, il y avait une excuse et les gens se rendaient bien compte que là, il y avait des absences et que on m'appelait éléphantement parfois, je ne sortais plus de chez moi. Donc il y a eu des plaintes, et un jour, chez moi, il s'est passé un drame, il y avait ma fille Océane, il est devenu fou parce qu'il avait perdu son portefeuille, on sortait du restaurant, il était alcoolisé, il a commencé à me gifler, il a commencé à tout casser dans l'appartement. Et quand je voulais lui rentrer dans une furie, moi-même ce jour-là, j'ai cru que c'était mon dernier jour. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ça a tout cassé dans ma maison, m'a frappé. Et le pire, c'est que moi, j'étais assise et je voulais pas faire de bruit, je voulais pas crier parce que je voulais pas qu'Océane se réveille et qu'elle entende les coups. Mais ça cassait tellement les claques et les coups de poing, ils étaient tellement énormes que ma fille s'est levée et comme c'était pas la première fois et comme c'était souvent, alors que c'était une toute petite fille de 6 ans, elle s'est levée du lit, elle est venue en courant. Et elle a hurlé, touche pas ma mère, sors de chez nous, j'en ai marre que tu tapes ma mère. Et là, il a couru après. Je lui ai dit, cours dans ta chambre. Il a couru après, jusqu'à l'entrée de sa chambre. Mon cœur, moi, en tant que mère, il a fait 10 000 tours, parce que là, c'est ton enfant. Je cours derrière lui pour l'arrêter, pour dire, arrête, ça va pas, t'es malade. Elle était accroupie par terre, je m'en souviendrai toute ma vie, elle était au sol. Tout recroquevillé, il était sur elle comme un ogre, en train de lui hurler dessus, de brambalant. J'ai cru qu'il allait la tuer, quoi. Tant bien que mal. On s'est frappé, il m'a sauté dessus, je me suis retrouvée au sol. La maison, elle était en 1000 morceaux, la maison. Ça me dit que mal, j'ai essayé de m'échapper, j'ai essayé de sauter. Mon premier but à moi, premier, c'était sortir ma fille.
Bien sûr.
J'étais au rez-de-chaussée. J'avais ou le balcon ou la porte. Là, j'ai couru au balcon pour essayer de la faire sortir. Il a couru au balcon, il l'a fermé. Il a tout barricadé. J'ai essayé de sortir. Moi, je voulais sortir ma fille, mais l'appartement, il était en plein milieu. Elle était au fond, à gauche. C'était un long couloir pour arriver à la porte. C'était compliqué. Donc, tant bien que mal, j'aurais réussi à sortir ma fille au péril de ma vie parce qu'il était sur mes jambes derrière. En plus, on a l'impression que ça dure une éternité. Tu sais plus, t'as plus la notion du temps. Mais je me souviens, j'étais par terre, il était derrière moi, couché derrière moi. Il y avait de tout partout. J'ai réussi à ouvrir la porte et j'ai sorti ma fille. J'ai réussi à passer ma fille, à la sortir. J'ai dit, cours, va t'en fermer chez la voisine. Et là, je ferme. Et là, j'étais couché par terre, il était derrière moi. Et puis, vous pensez bien que j'ai essayé de vous sortir de là, parce qu'il est dans un état de démence. Il n'y a plus rien qui l'arrête.
Oui, hein.
Pour moi, c'était la foi extrême, quoi. Et donc, comme tout était cassé, tous les meubles étaient tombés, c'est vrai qu'effectivement, à l'entrée, j'avais un secrétaire avec un ciseau d'école, un scotch, un post-it, le truc, genre de truc qu'on a sur les secrétaires dans un hall d'entrée d'appartement. Et donc, je lui casse un cendrier, je crois, je sais pas, je prends un cendrier, je lui casse sur la tête.
Oui.
Je réussis à partir et je m'échappe dehors, sauf qu'il me court devant tout le monde. Il n'y a personne qui bouge. Il me court après, dehors. Je suis à moitié habillée, je hurle. Les gens ont tellement peur de lui, en fait. Les gens dans le village ont tellement peur de lui, parce qu'il n'a pas eu des problèmes qu'avec moi, qu'il y a tout le monde est pétrifié, tout le monde. Il n'y a personne qui bouge. Et c'est vrai que quand je suis partie, j'ai pris le ciseau d'école. Vous savez, les ciseaux d'école, quoi, des petits ciseaux. Je l'avais en main. Il était contre moi, il avançait, il me mettait des coups de pied. Je dis arrête, calme-toi, arrête. Et j'en prenais. Et à un moment donné, c'est un geste de défense. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Ça faisait 2 ans que je prenais des claques à l'hôpital et j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, ben, je décide, voilà, je mets 2 coups de ciseau, 3, et puis je pars en courant. La gendarmerie arrive, les pompiers arrivent. Bon, il est blessé, moi aussi, il est hospitalisé.
Ouais, il a pris des coups de ciseau d'école. Vous n'avez pas bien dû lui faire mal avec des ciseaux d'école, non, enfin...
Il a été un peu blessé au poumon, mais bon.
Ah oui, quand même.
Voilà.
Avec des ciseaux d'école avec des, parce que
c'était pas un gros ciseau, c'était pas un gros ciseau, mais...
Il était pointu.
Ça lui a quand même... Bah, pointu, mais en tout cas, je l'ai blessé. Ouais. Je ne peux pas reconnaître.
Non, mais écoutez, de toute façon, si je vous pose ces questions, ce n'est pas pour vous acculer. Vous étiez en état de légitime défense totale, Leïla. Vous vous êtes défendue.
Moi, ma fille elle a 20 ans aujourd'hui. Elle a assisté à tout ça. Ça faisait longtemps que j'ai déposé des plaintes. Par exemple, dans ma voiture pour travailler, il m'avait cassé les câbles. Il était caissière à Carrefour. Il est venu agresser ma patronne. Il a insulté l'agent de sécurité qui a dû aller à la gendarmerie faire une main courante parce que comme il y a des clients. Moi, je suis partie parce que je suis une bosseuse, j'ai toujours travaillé.
Mais il vous aurait tué, moi, Leïla. Vous avez bien
tuer.
Fait de partir, il vous aurait tué, cet homme. Est-ce qu'il a fait de la prison, lui? Est-ce qu'il a fait de la prison, lui?
Oui.
Ouais. Suite à ça, il a fait de la prison?
Il a tapé son père.
Non, mais pour vous, vous me dites
non,
que vous,
jamais,
vous,
jamais,
vous avez, on vous a cassé, jamais. Il vous a cassé le nez plusieurs fois, il vous a tabassé, il a broyé l'intérieur de votre maison, et c'est vous, ce soir-là, qui êtes condamné parce que, en état de légitime défense, vous donnez des coups de ciseaux pour vous défendre. Souvent, on évoque la justice qui marche sur la tête dans cette émission. Je vous ai laissé parler pour que celles et ceux qui nous écoutent entendent bien les mots que vous prononcez, le calme avec lesquels vous prononcez, avec lequel vous prononcez ces mots, ils résonnent vrai, vos mots. Ce que vous racontez résonne vrai. Et c'est ce pourquoi j'assène souvent sur cette antenne que ça ne va plus. C'est vous qui vous êtes retrouvé en prison, on marche sur la tête. Combien de temps vous avez fait de prison pour ça?
Alors, comme je suis une teigneuse et que j'avais ma fille aussi en dehors, vous pensez bien que j'ai quand même parce que moi-même je suis issue de l'aide sociale enfance, mais ça, ce sera peut-être un autre débat. Oui, oui, ça se perpétue, c'est traditionnel en France qu'on place de petit-fils en petit-fils. Donc en fait, je me suis battue.
Attendez,
alors, au départ,
j'aimerais m'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous pensez que quand on a été placé, on fait l'objet d'une attention particulière lorsque on est à son tour parent?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que les enfants placés de foyer, les enfants de la DAS d'autrefois dont je fais partie, ils sont broyés. Ils sont détruits. Ils sont conditionnés à ne pas être éveillés. Ils sont conditionnés à haïr leurs parents, comme moi j'ai haï ma maman. Ils sont conditionnés à vouer un culte, comme il est loufoque, à l'ASE, parce que eux, ça a été des enfants qui ont été placés comme Perrine Goulet, la députée, parce que eux, effectivement, ils étaient en danger. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Donc, non. Les enfants de foyer, c'est les enfants de précaires. Les enfants de foyer, c'est les enfants issus de l'immigration. C'est les enfants qui ne vont pas évoluer, qui vont nourrir ce système social et cette précarité sociale, qui va nourrir les tribunaux, les CMPP, et les psychiatres, et les tribunaux, et les avocats, et les magistrats, et les éducateurs, et les transports, et la hache, et le conseil départemental, et le conseil régional qui verse au conseil départemental, et l'État qui verse au conseil. Mais sauf que l'ASE, c'est des fonctionnaires. Un parent, il vous laisse...
Non, oui. ce que vous dites, on l'a déjà entendu, mais à ce point-là... C'est assez incroyable. On va devoir marquer une pause pour l'info, Leïla. Donc, vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
Et à tout
de suite.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 3 minutes, 4 minutes presque, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez continuer à composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous le savez, vous tombez sur le petit disque d'accueil d'Europe 1. Et si vous voulez parler à Julia ou à Florian directement, eh bien vous faites le 1. Pour le moment, nous sommes avec Leïla. Leïla qui depuis 3 ans se bat pour sa fille qui est placée dans un foyer où elle dénonce... On va le voir plusieurs choses, je ne vous en parle pas maintenant puisque c'est la seconde partie à venir du témoignage de Leïla. Parce que malheureusement, au-delà du placement de sa petite fille, Leïla doit nous parler de quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement choquant, malheureusement. Leïla, on va clore sur le placement de votre fille parce que la seconde partie de votre témoignage est aussi importante parce que vous allez souligner... un dysfonctionnement et quelque chose qui vous met totalement en rage et dans la peur aujourd'hui pour l'intégrité physique de votre petite qui est placée. Mais au final, pourquoi a-t-elle été placée ? Parce que vous avez fait de la prison, mais vous faites de la prison dans un...
Pas du tout.
Non. Vous m'avez dit que vous aviez fait de la prison, mais ça n'a rien à voir avec le placement de votre fille, je suppose. Pourquoi, en fait, finit-elle par être placée, cette petite ?
Et d'alors, avec le papa, on se met ensemble, on a eu Inaya. Les violences continuent, ne s'arrêtent pas.
Oui.
Et un jour, je pensais que ça y est, ça allait se terminer. Il a commis des violences sur sa propre fille âgée de 4 ans, Inaya. Moi, je vous parle, bon, qui est placée aujourd'hui. Je me suis dit, t'as fait de la prison, c'est ironique. T'as pris des coups, tu t'es défendu, t'as fait 4 manies, tu t'es battu pour sortir parce que t'as failli prendre 10 ans. Et ironiquement, 4 ans après, il y a des voisins, des gens qui ont fait des vidéos parce qu'il maltraitait ma fille, notre fille. Il l'a maltraitée, il l'a frappée. Et c'est des gens que je ne connais pas qui ont déposé plainte auprès de la gendarmerie.
D'accord.
Et qui ont été dénoncés.
Qui ont fait un signalement, donc.
Qui ont fait un signalement. Et en plus, ils avaient fait des vidéos pendant un mois. Tous les jours, ils le filmaient. Parce que c'était trop extrême.
Que je comprenne bien, parce que si je n'ai pas compris, celles et ceux qui nous écoutent n'ont pas compris non plus. Vous ne vous mettez pas avec celui qui a pris des coups de ciseaux. C'est fini avec celui-là.
Si, c'est ça que je suis en train de vous dire, monsieur.
Vous remettez avec lui ?
Écoutez, monsieur, j'étais en prison, ce qui m'a fait sortir. Alors, écoutez, pour vous dire que j'étais en prison, il m'a demandé un mariage à la radio présence en direct. Il m'a écrit des lettres d'amour. Il m'a demandé pardon. Ça a duré 4 mois. Tellement la juge, elle m'a sorti. C'était un fiasco, l'histoire. Il m'a demandé un mariage. Il m'a demandé pardon. Il m'a supplié. Quand
vous
je suis sortie de prison. Mais c'est même pas, c'est que quand je suis sortie de prison, je l'avais devant ma porte.
Oui,
il a dû pas s'en mettre de chez moi.
Ok, vous l'aviez devant la porte, mais bon, convenez quand même que vous en aviez quand même pris plein la tête.
Et je suis repartie.
D'accord.
Et je suis repartie. Il y avait déjà une emprise depuis bien 2 ans passés, ça fait presque 3 ans.
Comme beaucoup de femmes qui repartent.
Quand tu sors de prison, t'as rien, t'as perdu ton boulot, t'as plus de bagnole, t'as plus de logement. Je me suis retrouvée chez mes parents.
Oui.
Je me suis retrouvée chez mes parents, j'ai tout perdu moi ce jour-là. J'ai travaillé à la poste. J'avais un logement, j'avais une voiture, je me suis retrouvée chez mes parents. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves sans plus rien ? Et que ta fille, t'as même plus de logement. Et qu'il est là, il te demande pardon, que ça y est, il va arrêter de boire, que c'est un nouvel homme, que ça lui a servi de leçon.
Un violon.
Il m'a demandé. Et surtout, ce qui m'a un peu convaincue, c'est qu'il a appelé. Il y avait des appels téléphoniques autrefois dans les prisons de Radio Présence. Et il m'a demandé un mariage pratiquement tous les jours, à l'entente de toute la prison. Donc, c'était pas cohérent avec le fait qu'ils disent que j'ai essayé de le tuer, parce que lui, il a dit que j'avais essayé de le tuer. Ou finalement me demander en mariage et m'envoyer des lettres d'amour que la juge, j'avais 15 lettres par jour, il m'a fait des dessins, des fleurs, il m'a envoyé des photos. C'était normal, c'était bon, t'as fait une bêtise, je te pardonne. C'était lui qui me pardonnait. Donc en gros, il m'a relaissé une chance.
C'est dingue.
Et moi, je me suis culpabilisée de l'avoir blessé. Mais t'imagines, j'ai failli mourir, t'as fait monter la vie.
Enfin, il vous avait fracassé ce soir-là, donc c'est bon.
Ouais, mais je me suis dit, ouais, je lui ai fait mal quand même. Et...
Oui, vous lui avez fait mal, vous étiez, en état de légitime défense. Un homme qui tape une femme, elle se retrouve en état de légitime défense, parce que d'un coup de poing, un homme peut tuer une femme.
Et puis après, j'ai cru, je me suis laissé partir.
Vous y avez cru, vous y revenez. Donc on en est au mois où donc pendant un mois, vos voisins prennent des vidéos. Et font un signalement. D'accord.
Voilà. Donc là, il y a une plainte du procureur pour violence sur ascendant mineur. Donc il est en garde à vue. Moi, on m'appelle. Moi, j'étais à Perpignan, je fais demi-tour. J'étais sur la route, je partais à Perpignan. Donc, je fais demi-tour, je repars. Je fais demi-tour direction la gendarmerie. On ne veut pas m'expliquer, on ne veut pas me répondre, bien que j'ai l'autorité parentale, puisqu'elle n'est pas encore placée. Elle a 4 ans, elle vit avec nous. Et encore, on était ensemble, mais on avait chacun son logement. C'est-à-dire qu'on était dans le même village. Et moi, j'avais mon logement, lui, il avait son logement. Parce que moi, quand je suis sortie de prison, même si j'ai eu mon enfant, pour moi, après, ça a été compliqué de voilà. Donc, on était ensemble, mais chacun son logement. Voilà, donc j'étais chez lui, venais à la maison, une semaine chez lui, une semaine chez moi. Mais pour moi, c'était une façon de me protéger et d'être indépendante au niveau du logement, puisque en sortant de prison, je me suis retrouvée sans logement. Et vu que j'avais la grande, c'est normal d'avoir un logement. Et donc, du coup, je vais à la gendarmerie. Donc, on me demande d'aller voir l'avocat pour saisir le dossier au tribunal. Donc, mon avocat, j'appelle mon avocate. Donc là, c'est au tribunal pour savoir ce qu'il en est. Et là, on me dit que c'était ses premières vacances où il avait pour la première fois la petite tout seul, puisque à chaque fois il y avait des problèmes, à chaque fois qu'il y avait la petite, il y avait des problèmes. Il lui a mis des gifles, il lui a mis des fessées. Elle était toute l'après-midi au soleil, assise par terre, avec des enfants de 16-15 ans en train, avec des 8-6, en train de fumer du shit, normal. Au parc, en train de jouer à sa pétanque, de 14h jusqu'à 21h le soir. Voilà quoi, pas la sieste, alors que c'est l'âge où 4 ans, quand il fait 40, peut-être que toi tu vois et tu fais ta pétanque. Et lui, il a quand même aujourd'hui 52 ans, donc on a 11 ans de différence. Un homme de 42 ans qui laisse sa fille de 4 ans assise par terre en train de jouer avec des jeunes de 16 ans qui sont vers leur pierre de 14h jusqu'à 21h alors qu'il fait soleil et qu'il fait bouffer un sandwich par terre. Et oui, à un moment donné. Mais ce qu'il a fait condamner, c'est les violences. Il l'a frappé. Et il a été condamné à 18 mois de sursis avec 1 000 euros de dommages et intérêts. Et ce n'est pas moi qui me suis constituée, c'est l'État qui a pris un avocat pour ma fille. puisque c'est donc des voisins qui ont témoigné. Donc c'est l'État qui a porté plainte contre lui, ce n'est même pas moi. Et donc ma fille, elle a eu une administrateur ad hoc, donc pour gérer les fonds d'INAIA, pour qu'elle ait ses 1 000 euros bloqués jusqu'à ses 18 ans. Quoi. Il a été condamné, il ne lui a pas enlevé la garde, il n'a jamais payé les 1 000 euros de dommages à intérêt, il n'a jamais été inquiété, et c'est passé comme une lettre à la poste. Et après on dit aux femmes, il faut partir. Et moi je m'étais dit, si avec ça, parce que c'est ironique que tu te dis, t'as fait de la prison, t'as pris des coups pendant des années, il a fallu qu'il mette la main sur sa fille, et en plus c'est pas moi, parce qu'on aurait pu dire que j'ai inventé, que je voulais me venger de la prison, je sais pas, on aurait pu, voilà, encore une fois inverser la situation, puisque on ne croit pas en tant que femme battue, on raconte des histoires que personne ne peut les entendre. Moi personnellement, avant-hier, j'étais avec l'ami de Valérie Bacot. Voilà, j'ai discuté 2 heures avec lui, parce que quand je suis tombée sur elle et sur Jacqueline Sauvage et tout, ben j'ai eu l'impression que c'était moi, mais à Toulouse en fait. Mais différemment, dans des situations différentes.
Bien sûr, bien
vraiment.
Sûr.
Et donc du coup, ben, après ça, tu te dis, t'es partie en foyer, t'as quitté Toulouse, t'as laissé ta fille, t'as été privée de ta famille. Après, c'est la petite qui est hyperactive, donc il avait toujours les week-ends. Il avait les vacances comme si de rien n'était. Tout est reparti comme si de rien n'était. Alors que tous les week-ends, quand il avait la petite, un week-end, parce que moi, je lui fais d'abord le logement. Je me suis détachée de lui. Donc, je commençais à sortir, reprendre le travail, reprendre une vie de femme. Donc, après les week-ends, c'était le chantage sur la petite, je ne la prends pas. C'était la semaine où il devait la prendre pendant les vacances. Il t'annonce 2 jours avant qu'il travaille, alors que toi, tu travailles. Il dit, moi, je m'en fiche. Mais tu ne vas pas travailler. Ou alors, il disait à la petite, si ta mère ne vient pas, je ne vais pas te chercher. Il faisait beaucoup de chantage à la petite. Et ça, je ne l'oublierai jamais. J'avais la petite au téléphone chez son père, elle pleurait, maman, si tu ne viens pas, papa, il a dit, et il criait à côté d'elle, il hurlait, quoi. Mais j'y allais. Qui n'y va pas? Qui n'y va pas? Quand tu sais déjà qu'il y a eu des coups, qui n'y va pas? Quand ma fille m'appelle, me dit, maman, j'ai pas mangé. Comment ça, t'as pas mangé? Alors, je lui demande comment a fait sa journée. Ben, ce matin, j'ai bouffé, il m'a donné, j'ai mangé, il m'a donné un yaourt. Après, à midi, comme il était avec son copain, j'ai mangé une tomate cerise et du saucisson. Il l'a fait manger sur une table basse. Si elle a malheur de faire tomber une miette, vaut mieux qu'elle la ramasse. Ma fille, elle mange, elle ne peut pas faire de miettes. Il est très militaire. Il voulait faire militaire. Il a raté sa carrière, il a été exempté. C'est une enfant, elle goûte. Donc, je lui demande si elle a mangé autre chose. Et elle me dit, c'est 22h. Et elle me dit non, parce que papa, il est sur la terrasse, il fait l'apéro.
Bon, de toute façon, on comprend que bon, c'est quelqu'un de très spécial, votre ex-mari.
Voilà.
Pourquoi cette petite a été placée au final?
Alors après, à l'école, vu qu'elle était toujours chez son père, on était sur deux, qu'il avait tout le temps des problèmes de gendarmerie, il avait tout le temps des problèmes. Il roulait sans permis, il s'est fait arrêter avec elle, elle n'était pas attachée, 3 fois, 4 fois, alcoolisée, on lui laisse la petite. La petite, elle n'était pas attachée. Il s'est arrêté 3 fois par la même gendarmerie. Hein. Il le ramenait chez lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Il le ramenait chez lui. Et le week-end d'après, il avait la petite. Voilà, c'est ça la réalité. Et que l'enfant le laisse au gourou. On a l'impression que ça fait travailler le système. Moi aussi, je me suis posé la question. Est-ce que c'est moi qui étais folle? Ou est-ce que le système aimait nourrir ça, en fait? Parce qu'au final, quand on dit on va sauver le peuple, non, déjà pour le sauver, laisse-le libre. Hein. On ne sera jamais... On ne va pas nous sauver, on n'est pas libre déjà. Donc voilà, donc du coup, le CMPP à l'école, comportement INAIA, hyperactivité, le CMPP arrive, le début de l'ASE qui rentre dans ta vie gentiment, qui vient te dire on va t'aider, mais la petite, ce n'est pas le problème qu'elle est hyperactive, hein. C'est que chez son père, ça ne se passe pas bien. Il la frappe, hein. Il la laisse au soleil, hein. Il ne s'en occupe pas. On en est arrivé aux violences sur la petite, moi je ne peux pas faire plus. À part que quand ma fille m'appelle et qu'elle est en danger, j'y vais, comme n'importe quel parent, que ce soit papa ou maman quand on aime ses enfants, au péril de se faire passer pour une barjot. Oui, effectivement, bah, j'ai dit, bah oui, mais il y a ma fille, tu comprends bien que je n'ai pas mis de la retrouver comme certains de ses enfants qui sont morts sur les coups de leur papa ou de leur maman. Et je veux dire, moi quand j'allume la télé, je vois des trucs, je me dis, mais ça pourrait être la mienne, parce que c'est arrivé. Donc si je n'y vais pas, quelle maman n'irait pas si votre enfant vous appelle au secours à 5 ans, 6 ans? La voix larmoyante. Et on entend le papa hurler derrière. Non, mais
du coup, elle a été placée suite
Et peu à peu, Peu à peu, ils m'ont fait signer en me disant « faut la protéger ». Du lundi au vendredi, elle sera en sécurité, un peu à l'ITEP, elle est hyperactive. Ça fait 3 ans, il faut faire une prise en charge pour l'hyperactivité, donc on ouvre un dossier MDPH. À contre-cœur, on me fait signer en me disant que ça va la protéger.
Pourquoi vous ne l'avez pas moi... C'est toujours à cause des copines, en fait. On est toujours la même année, là. Vous ne voulez pas la couper de son milieu scolaire, donc vous ne l'avez pas pris avec vous, c'est ça?
Non. C'est que, en fait, Inaya, il y a eu le CMPP, il y a eu une mesure de prise en charge avec l'ASE, c'est-à-dire mesure d'AEMO, le suivi psychiatrique, parce qu'elle était hyperactive. Et on diagnostiquait hyperactive, l'aide sociale à l'enfance. Après 3 ans de CMPP, le CMPP, c'est le suivi médical psychologique qui est juste à côté, donc l'aide sociale à l'enfance. À partir de là, c'est la machine qui se met en route, en fait. Donc, il y a une ITEP qui se met en place, 2 nuits par semaine dans un internat. Une ITEP, c'est un centre de soins, voilà, mi-scolaire, mi-soins, voilà, dans ce qui est thérapie, tout ça, pour calmer l'hyperactivité. Et donc, après, ça commence, le papa continue, les violences continuent. Donc, il décide, parce que le papa l'a décidé, de placer la petite, en gros, pour la protéger. D'accord. Pas de moi, d'accord. Mais de lui.
D'accord.
Voilà, donc en fait, plus ça avance, vu que le papa n'arrête pas, il enlève mes droits peu à peu. Et après, d'audience en audience, t'as plus rien, t'amènes les éléments, tu te bats, on te fait des expertises psychiatriques, et puis ta fille souffre, et puis ta fille sait que tu... Aucun titre à délit. Je ne suis coupable de rien. Je n'ai rien à faire dans le juge des enfants. Ça, c'est l'article 5 de la Constitution 1958. Je n'ai rien à faire. Dans le bureau de la juge des enfants, sur des rapports mensongers, faux, parce qu'à un moment donné, ils perdent le contrôle, ils ne savent plus quoi faire du parent malveillant. Alors qu'au lieu d'aider les parents et au lieu d'aider la famille, ils placent l'enfant. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça nourrit le système, c'est un budget. Un enfant aujourd'hui dit normal, c'est 7000 euros de prise en charge par mois. Moi, en mettant ma fille hyperactive, c'est 25 000 euros par mois, entre 22 et 25 000. Avant, il y avait 2 juges, le juge des enfants et le juge de la famille. Ils ont dissous le juge de la famille. Pourquoi? Le juge de la famille prenait toute la famille. Quand il y avait un problème d'argent, de travail, de maladie, on aidait la famille. Le papa pouvait perdre l'emploi. On avait des difficultés à payer EDF. L'aide sociale à l'enfance, elle a été créée pour ça. Pour aider la famille, justement pour pas qu'elle soit disloquée, que les enfants restent dans leur milieu naturel, ce qui est reconnu par des milliers de rapports. Pierre Navès, M. Seguin, ils ont été condamnés 7 fois à la Cour de cassation, l'article 6, l'article 8. On a bafoué tous les droits, il n'y a même plus de constitution. Mais le problème, c'est que l'aveu, eux, y placent. On a supprimé le juge de la famille, on ne s'occupe plus de la famille. Et on a mis le juge des enfants. Le juge de l'enfant, il prend les enfants, il laisse la famille à l'extérieur. Parce que c'est devenu un budget, sans compter tout ce qu'il y a derrière après. Pour ma fille, d'autant plus aujourd'hui, qu'elle est victime d'attouchement sexuel, qu'ils ont dissimulé ça depuis 3 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles, que ça s'est tombé dans la semaine, qu'elle a 11 ans aujourd'hui, que depuis septembre, elle appelle SOS du collège, que personne ne veut l'entendre, ni le collège. Et que ma petite princesse, elle aura fait un coup de maître grâce à son avocat et toute l'aide qu'elle a autour. Je pense, et par l'aide de ses copines de collège, elle a écrit un courrier au procureur de la République en demandant de déposer plainte parce que les éducs avaient menti, qu'elle avait été touchée sexuellement et voire peut-être plus.
Alors, le 7 décembre 2021, elle a subi des attouchements sexuels de la part d'un autre pensionnaire, visiblement, et elle a assisté au viol de sa copine Cristal, âgée aussi elle-même de 11 ans. Ça s'est fait là. Elle dit que ça s'est passé au foyer, ça s'est passé dans la
ça
famille d'accueil.
Ça s'est passé à l'ITEP Saint-François-Bordereau.
Où ça, pardon?
À l'ITEP Saint-François-Bordereau, c'est à Toulouse. C'est un centre de soins où des enfants pris en charge, mi-scolaire, c'est de la scolarité, mais par des soins, si vous voulez.
D'accord.
Donc, en plus, un centre d'handicapés, quoi.
Voilà. D'accord. Et on dort dans ce centre, quoi, en fait, elles sont...
Elle y dort de nuit, ce que moi, je ne voulais pas, parce qu'il y avait déjà eu des faits avec ce même garçon, dont 2 autres. Ma fille, elle a été victime de violence éducatrice pendant 2 ans. J'ai déposé plainte contre une éducatrice, a été classée. J'ai amené ma fille au médecin traitant. J'avais encore des visites au tout début. Le médecin traitant la connaît, c'est le médecin de famille. Quand il a entendu les propos de ma fille, Il a décidé de faire un signalement au procureur en 2019 et en 2020. À partir de là, les problèmes ont commencé. Les visites, elles ont commencé à sauter. Ma fille, elle commençait à avoir des mycoses. Ma fille ne dormait plus. Elle avait des bleus. Jusqu'au jour où elle m'a dit « Mais maman, tu ne m'as pas cru. » Et quand un éducateur ou un professeur, quand vous allez chercher votre gamin à l'école, il vous dit « Votre fille, elle a fait une bêtise. Votre fille, elle a frappé l'éducateur ou elle a frappé le professeur. » Moi, je ne remets pas en cause des professeurs et éducateurs. Je ne peux pas me dire que les gens qui sont censés protéger ma fille dans un centre de soins reconnu handicapé puissent faire ce genre de choses sur mon enfant. Donc moi, je parlais avec ma fille. Parce que bien entendu, ce qui m'importe, c'est ma fille. Parce qu'on me dit, j'écoute ma fille pour savoir pourquoi elle a fait comme ça. Et elle me disait. Et moi, je leur dis, attendez, il la frappe, il va à la douce. On a été convoqués plusieurs fois. Et un jour, ça a été trop loin avec ma fille. Ça a été trop loin avec ma fille. Ils n'ont pas venu nous dire tout. On a été convoqués par les deux directeurs de l'ITEP et le plus grand chef. Parce qu'il y avait trois garçons, dont celui-là qui était brut. Et j'avais dit, il se passera quelque chose avec ce garçon. Il se passera quelque chose. Lui, c'est un enfant. Mais on sait que dans sa vie, il va faire du mal dans ce monde. Et je l'ai dit. Je l'ai dit sur un live il y a 6 mois. Ce gamin, dans 10 ans, vous le retrouvez à la télé. Vous êtes en train de créer un ordal hollandais, le fournirait en puissance. Je l'ai dit. Mais ça reste un enfant. Il a besoin de soins. Non, ils veulent pas le soigner. Non, ils veulent pas le soigner, non, puisque c'est arrivé. Juste qu'il y a eu viol. Donc, j'avais fait des signalements. Comme je ne comprenais pas ma fille, j'ai décidé de prendre un psychiatre privé à l'extérieur et de payer pour qu'elle puisse libérer sa parole. Quand j'ai commencé à faire tout ça, peu à peu, j'ai perdu mes droits, parce que peu à peu, j'ai fini par comprendre que ma fille était maltraitée, qu'elle subissait des violences, des éducateurs. Elle a même montré des scènes d'humiliation où ils leur prenaient les bras et les croisaient contre eux. Elle venait nous coucher au sol, elle nous allongeait et ils s'asseyaient sur nous. Moi, ça m'a pétrifiée quand elle a dit ça. Même la psychologue, j'ai préféré tourner ma tête parce que mes larmes, elles sont tombées. Elle m'a fait comprendre, ne pleurez pas devant elle. Moi, ma fille, quand elle m'a montré le... Il faut le vivre, vous comprenez? Donc, je me dis, ces enfants qui sont en difficulté, qui eux-mêmes, déjà, pour certains, sont très violents, ce qui n'était pas le cas de ma fille, et on met toutes les pathologies ensemble. Le violent, le pas violent, celui-là qui a un problème de dyslexie, celui-là qui a un problème d'handicap, on les met tous ensemble. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, ma fille,
on va devoir conclure, Leïla. La suite de tout ça, vous en êtes où? Vous avez porté plainte? Vous avez,
alors, j'ai porté plainte.
Vous
j'ai
avez alerté les, je ne sais pas, la presse, parce que vous, finalement,
je cours de partout.
Vous m'avez écrit que ce sont des cris de détresse que vous lancez et que vous avez l'impression de ne pas être entendu. Comment ça se fait?
Alors, je vous explique. Quand c'est arrivé, ça, je suis toujours pas au courant, personne ne m'a appelé. C'est ma fille du collège, le 16 décembre 2021, qui m'annonce les faits du 7 décembre. C'est ma fille qui m'annonce tout ça, du collège, en direct du collège. Je ne suis depuis au courant de rien. Je vais au commissariat avec ma sœur, on ne veut pas me répondre. On refuse ma plainte. Ils finissent par la prendre parce que j'enregistre tous les audios de ma fille. Ils sont obligés de prendre parce qu'elle dit qu'elle a tout vu, qu'elle était là. Et je sais qu'il y a eu des jeux. Il y a eu des cas, c'est l'âge, ok. Mais le veilleur de nuit n'était pas là. Je vais à l'ITEP au centre de soins. C'est l'école, c'est un centre de soins. Ils sont censés m'appeler. J'ai toute autorité. Ils me disent non, allez voir l'ASE. L'ASE me dit c'est là-bas. J'appelle les gendarmes. Je finis par les insulter et les menacer. Je pète un plomb. Le 5 janvier, on vient me mettre en prison. De cette année-là. Le 5 janvier, on vient me remettre en prison. Pendant que je suis 20 jours de prison, ma fille est auditionnée avec le papa et l'éducatrice. Ils disent qu'il ne s'est rien passé, qu'elle n'est que témoin et que si le veilleur de nuit était là. De là, j'arrive à l'audience le 12 et le 11 avec ma mère, ma sœur. On a chacun une audience parce que ma sœur a demandé des droits avec mes parents, moi et Inaya avec son avocat. Ils disent madame a été véhémente, elle a été mise au courant par l'ASE, par l'ITEP. Mais madame elle s'est mise en colère, donc on a décidé de couper les ponts. Elle est nocive pour sa fille. Il ne s'est rien passé, elle n'était que témoin. Ça, c'était la dernière audience du 12 et du 11. On a eu l'appel, on a eu la chance, comme dit l'avocat, d'avoir l'appel de l'an dernier qu'on avait fait le 13 mai. Elle réitère ses propos. Je vais voir madame, parce que je les ai tous enregistrés. Ils ont tous menti. La brigade des mineurs, le conseil départemental, la gendarmerie. Et c'est Inaya qui les a éteints, foudroyés d'un coup de tonnerre, qui a 11 ans, se bat depuis septembre, qu'elle s'est fuguée, qu'elle s'est retrouvée dans le bus, qu'ils ont mis en psychiatrie dimanche. Ils sont en train de s'affoler. Elle a écrit au procureur. Elle a écrit de partout. Elle a dit, je veux déposer plainte. Les éducateurs, ils mentent. J'ai été attouchée sexuellement. Et le pire, monsieur, c'est que le chef de service et l'éducateur ont gommé des phrases. Parce qu'elle a fait deux lettres tellement que c'est ma fille, qu'elle est intelligente et qu'elle a la force de sa mère tellement. Elle a fait la lettre au chêne vert quand ils ont compris qu'ils allaient tous tomber parce qu'elle a été auditionnée pendant que j'étais en prison. Le 24 janvier, alors que je suis sortie le 25, ils m'ont mis 20 jours, juste manière de me dire, mais ils appellent la brigade des mineurs qui était au courant, qui m'a dit non, vous m'avez jamais mis au courant des faits. Et votre plainte, elle est partie là-bas. J'ai dit, mais attendez, c'est toute autorité parentale.
Alors, on va,
et là,
on va...
Inaya, elle a porté plainte au procureur. Et là, tout s'arrête. D'un coup, là, j'ai appris ça il y a quelques jours. On vient de tomber de haut. On devait avoir la réponse de la cour d'appel. Ils sont choqués. Elle les a éteints, elle a dit la vérité. Ils ont gommé. Ils ont gommé qu'elle avait écrit, mais elle a 11 ans, elle parle. Mais par-dessus, elle a été plus intelligente. Elle a écrit à directement au procureur de la République et elle demande à déposer plainte contre l'aide sociale à l'enfance, contre les éducateurs et contre Grégory depuis 3 ans, monsieur. Et attendez, je ne sais pas encore s'il y a eu viol. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a tout. Et depuis, on a porté plainte contre moi, le chef de service. À 3 plaintes avec les éducateurs. Depuis le 1er janvier, ça y est, encore l'abattage. Ma fille a été en psychiatrie aux urgences sans que je sois au courant. Je l'ai appris hier, le 13 juin, pour une crise comportementale.
Bon,
ils sont en train de l'étouffer à ma fille.
En tout cas, Leïla, j'entends combien cette situation est tout à fait pesante, affolante pour vous. Vous ne manquerez pas de nous tenir au courant, bien évidemment, de la suite des événements. J'espère que ça va bouger et que si votre fille a écrit au procureur, que le procureur va entendre la voix de cette petite. Aujourd'hui, de toute façon, elle a passé 8 ans. La voix d'un enfant peut être validée par un juge, un procureur. Donc, tenez-nous au courant, Leïla. Et puis, courage à vous. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant. Bonsoir, Leïla.